Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. Maître Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour lui donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme ? Jésus répond : les enfants de ce monde-ci se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vive pour lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur
Jésus. Je me souviens, lorsque nous étions enfants, nous faisions des charades. Mon premier et ceci, mon deuxième, mon troisième, etc. Et ici, on a un évangile qui est un peu sous la forme de charade. On vient raconter une histoire à Jésus, mais une histoire sous la forme de piège pour essayer de lui faire prendre position sur une question qui, à l'époque, restait débattue, très débattue, c'était la question de la résurrection. La première lecture que vous avez entendue, c'est l'histoire de 7 frères qui sont mis à mort successivement, ainsi que leur mère, par fidélité, pour la question de manger du porc, par exemple. La fidélité à certaines prescriptions de nourriture fait allusion à une grosse persécution, effectivement, qui a eu lieu au IIe siècle, en 164 avant Jésus-Christ, où le peuple de Dieu, qui à l'époque était sous domination grecque, je crois, l'empereur étant Turcus Épiphane, a été vraiment persécuté, et c'est resté dans l'histoire biblique, d'ailleurs, avec un nom tout à fait fort, l'abomination de la désolation. Voilà. Et l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, quand elle parle de cette période, la tient vraiment comme une référence en matière de persécution. Bon, mais vous avez entendu la première lecture, c'est raconté de façon, c'est un peu une relecture, où tout est très beau, où la façon dont les personnes se veulent fidèles à ces prescriptions de la loi de Moïse, la façon dont elles meurent, c'est vraiment sans faille, sans problème. Voilà, ça c'est toujours la question de la relecture de l'histoire que l'on fait après coup. Mais ces choses ont été mises par écrit pour fortifier notre foi en la nécessité d'être fidèle à notre foi chrétienne, quoi, pour nous, chrétiens. Et ces récits bibliques nous aident à prendre conscience que avant nous, certains ont donné leur vie pour la foi, pour la vérité de la foi. Ça continue. Il ne faut pas penser que c'était simplement il y a 2 siècles, ça continue. 22 siècles plus tard. La personne qui ouvre le matin la chapelle de la Visitation, place de la République, où je passe une partie de mon temps en semaine, est un chrétien irakien qui habite juste à côté, pas très loin, et qui connaît très bien plusieurs des chrétiens qui ont été mis à mort il y a 2 semaines, dans ce massacre qui a eu lieu dans une église à Bagdad, en Irak. Et il y a 2 prêtres qui ont été tués, dont un jeune prêtre qu'il connaissait, et 60 chrétiens qui ont été mis à mort. Et j'ai parlé avec lui cette semaine, et il me disait, de toute façon, faites bien attention, parce qu'un jour, ça arrivera chez vous, ce type de choses. Voilà, je vous transmets le message, parce que il faut le savoir. Lui, il en est tout à fait convaincu. Il dit, il vit depuis 30 ans en France, il dit, ça fait 30 ans qu'on le dit autour de nous, les gens ne veulent pas nous croire, mais ça arrivera. Donc la persécution, c'est quelque chose à quoi nous devons nous tenir prêts. En tout cas, la question ici, c'est la question de la résurrection, et la charade qu'on vient poser à Jésus, c'est de dire, cette femme a été mariée avec 7 frères, là encore, hein, on aime beaucoup le chiffre 7 dans la Bible, alors à la résurrection, puisque toi tu penses qu'on ressuscite, eh bien à la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour femme. Bon, question piège, et Jésus s'en sort très facilement en disant, mais vous confondez tout, parce que sur cette terre, pendant cette vie-ci, évidemment, on se marie pour assurer eh bien, le remplacement des générations. Et le mariage est une belle chose. Et la vie familiale est une chose extraordinaire. C'est magnifique. Et c'est bien. Mais dans le monde à venir, le monde de la résurrection, il n'y a pas besoin d'assurer la succession des générations. Et nos corps sont transformés, glorifiés. Nous serons toujours des hommes et des femmes, j'espère bien tout de même, quand nous aurons un corps sexué. Mais la sexualité, en tant que telle, n'aura plus cours. Et l'amour dans le monde à venir n'est pas l'amour entre deux personnes particulières, comme c'est le cas à travers le mariage, tel que nous le connaissons ici-bas. Mais l'amour sera universel. Et donc, toute personne sera en relation avec toutes les autres. Et vous comprenez que c'est en ce sens-là que Jésus a pu promouvoir par sa propre vie le célibat consacré. Et que l'Église aussi tient en grande estime et en grande valeur le célibat consacré. Non pas qu'il y ait à le mettre sur un même plan que le mariage ou à l'opposer au mariage, ce qui serait idiot, en disant que c'est un meilleur état de vie, pas du tout. Mais c'est le signe de ce que nous vivrons dans le monde à venir. C'est le signe, l'amour virginal est le signe de l'amour universel que nous vivrons dans le monde à venir. Il n'y aura plus d'amour particulier, mais un amour universel. Ça, c'est le mystère de ce que Dieu accomplira en nous. Et donc, voilà, Jésus dit, mais nous ressusciterons dans le monde à venir. Nous serons comme des anges, nous serons héritiers de la résurrection, dit-il. On a évidemment du mal à comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Hein, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils ne peuvent plus mourir. Ah, nous serons délivrés pour toujours de la mort, donc de la nécessité de la reproduction aussi. Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Voilà. En quelques mots, Jésus nous donne la clé de la vie du monde à venir. Alors évidemment, après cela, j'imagine que les interlocuteurs de Jésus sont repartis un peu penauds parce qu'ils ont bien compris que Jésus, lui, était partisan de la résurrection, parce qu'à son époque, les Juifs étaient divisés. Il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Une fois, d'ailleurs, saint Paul en a joué admirablement lors d'un procès. Il s'est mis à annoncer la résurrection. Alors immédiatement, les Juifs qui étaient là se sont chamaillés, comme ils savent le faire. Et voilà, les gens étaient divisés à ce sujet. Et Jésus prend position en disant, si le monde à venir, c'est le monde de la résurrection. Et Jésus lui-même ressuscitera, et la base même de notre foi chrétienne, c'est la foi, la résurrection de Jésus. Non seulement nous croyons que nous aurons une autre vie après la mort, mais nous croyons que nous ressusciterons, c'est-à-dire que la matière elle-même sera transformée, que nous aurons un corps, mais un corps glorieux, c'est-à-dire libéré de l'emprise de la maladie, du vieillissement, de l'entropie, de la dégradation, et un corps de lumière semblable à celui de Jésus, délivré pour toujours de la mort. La mort demeure un scandale. La mort demeure quelque chose d'épouvantable, que ce soit celle de nos proches, que ce soit la nôtre. Et si Jésus est venu jusqu'à nous, c'est précisément pour nous libérer, non pas du passage à travers la mort, nous continuons à mourir, mais pour ouvrir une brèche et nous permettre, par un acte de foi et d'espérance, de considérer que la mort n'est pas le mur sur lequel nous venons nous écraser à la fin de notre vie. Mais la mort est un passage vers la gloire de Dieu. Et Jésus vient faire le pont. Il est le pontife. Il est celui qui nous permet de passer de ce monde-ci au monde de la gloire, celui qui nous emmène vers le Père. Et c'est pourquoi, au fond, il nous faut sans cesse faire un acte de foi. Seigneur Jésus, je crois que tu m'as libéré de l'emprise de la mort, et je crois qu'à mon dernier souffle, tu me prendras et tu m'emmèneras dans la gloire. Ça, c'est vraiment notre acte de foi décisif que nous pouvons poser dès maintenant. Et vous savez, quand on a la foi, au fond, on est, d'une certaine façon, on est libéré d'un grand poids. On est heureux. On continue à avoir peur de la mort et à craindre la mort, mais en fait, on est heureux parce qu'on sait. On sait ce qu'il y a après. Je suis persuadé que beaucoup de gens qui se convertissent font l'expérience que, à partir du moment où ils croient en Jésus, ils savent, non pas intellectuellement, mais par le cœur, ils savent que ce monde-ci n'est qu'un monde provisoire et qu'il y a un passage vers le monde de Dieu. Parce qu'en rencontrant Jésus, Jésus, lui, il est dans la gloire. Il nous rejoint ici-bas, mais il est dans la gloire. Et la communion de cœur que nous avons avec lui nous permet de dire que oui, nous sommes promis à la gloire, nous sommes promis à la résurrection, à la vie éternelle. Et c'est une grande joie de le savoir d'avance. Alors donc, laissons tomber les charades, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ayons foi en ce que Jésus a fait pour nous, soyons dans la joie de notre vocation chrétienne.